Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Félix Auger-Aliassime. Bienvenue sur Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, c'était en 2017 à Bâle. Il affrontait mon frère que je coachais à l'époque. Julien l'avait battu alors qu'il n'était que 155e mondial. 3 ans plus tard, il est 20e et incarne la suite après les trois monstres. Il gagnera sûrement un grand chelem un jour. En tout cas, on lui souhaite quand on l'écoute s'exprimer sur notre beau sport. Je vous laisse découvrir son immense maturité à seulement 20 ans. Je m'appelle Antoine Beneteau. Bienvenue dans Échange.
Salut Félix.
Salut Antoine.
Tradition oblige, je vais te poser la question, est-ce qu'on se vouvoie ou on se tutoie?
On se tutoie.
Parfait. Bon déjà, comment vas-tu?
Non, je vais bien, franchement je vais bien. Là, Bon, si on retourne donc en arrière, début du confinement, j'étais au Canada. J'ai passé du temps en famille à Montréal, c'était très bien. Et après, je suis arrivé dans le sud, dans la France, là je suis à Monaco, donc je suis arrivé dans le sud début mai. Et bon, j'étais à l'entraînement chez à l'académie de Mouratoglou. Mm-hmm. Entre-temps, je me suis blessé à la cheville, je me suis fait une entorse qui m'empêchait de m'entraîner durant 3 semaines au final. Et depuis là, depuis le 1er juillet, j'ai repris l'entraînement ici là à Monte Carlo.
Et ta cheville va très bien?
Ouais, ma cheville va très bien et non, je vais bien, le moral va bien, je suis en santé, donc ça va.
Bon, super. Est-ce que tu vas jouer l'UTS, la compétition de Patrick Mouratoglou ou pas?
Oui, en fait, je vais jouer le week-end du 1er et 2 août.
D'accord.
C'est ça, je vais jouer un week-end là, avant une éventuelle tournée US Open.
On en reparlera peut-être un peu plus tard. Commençons par le début et le commencement. Pourquoi Félix Auger-Aliassime a choisi le tennis?
Alors, tout début, c'est sûr que c'est une histoire de famille. C'est mon père qui est entraîneur, mon père qui était passionné de tennis. Vraiment, c'est un peu l'histoire parce que le tennis, c'est sa vie, quoi. Le tennis, c'est juste complètement, il vit de ça, il rêve de ça il aurait rêvé, lui, qui est originaire du Togo, un petit pays d'Afrique de l'Ouest, aurait rêvé d'être joueur de tennis un jour. Par contre, par manque de moyens, d'infrastructures, il jouait vraiment pour le plaisir. Il jouait avec soit des touristes, soit avec des gens de là-bas. Il enseignait un peu à des petits, il donnait un peu des cours. Et la vie a fait que bon, il a rencontré ma mère. Ils sont arrivés au Canada en 99. Et début 2000, il commence à entraîner au Canada, à Montréal. Et moi, je nais en même temps, et donc ouais. Je tombe dans le tennis directement. Puis après, franchement, c'est comme tu n'as pas le souvenir de ne pas avoir joué au tennis. Hein, ça fait partie de ta vie. Je commence à jouer un peu des tournois à 6-7 ans avec des petits de mon âge, et je suis doué. Et puis en plus, tu sais, quand tu aimes quelque chose et en plus, tu es récompensé par un résultat assez rapidement. Comme enfant, c'est un kiff, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc évidemment, je continue à jouer et je prends plaisir. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, vraiment, j'ai pas pensé à faire autre chose. J'ai pas réfléchi à d'autres. Oui, évidemment, j'ai des réflexions comme tout le monde, mais je savais que c'était toujours ça en priorité, quoi.
Qui étaient tes idoles? Il y avait qui sur les posters dans ta chambre?
Il y a dû avoir, je sais pas si j'avais les posters. Il y a peut-être Rafa à un point, un poster, mais bon, Roger et Rafa, évidemment.
Et d'autres sports?
Tout le monde. D'autres sports, un peu par après, oui, en regardant les Olympiques, non, par des sportifs au Canada, tu entends parler de grands sportifs au Canada dans d'autres disciplines, c'est encourageant. c'est inspirant. Mais Joe Tsonga aussi, franchement, okay. Parce que, ouais, je l'ai dit souvent, tu sais, c'est quand même, au final, ben, je le réalise maintenant, mais d'avoir un exemple, un idole qui te ressemble un peu, tu sais, physiquement aussi, franchement, ça fait son chemin. C'est,
bien sûr.
Et pour un enfant, c'est drôle, quoi, parce que moi, j'ai grandi en plus dans la ville de Québec. Mmh. Donc, tu comprends que dans le tennis, des métis ou des noirs, comme mon père, il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Donc, de voir son gars, je ne sais pas, finale de l'Australian Open 2008, ou des matchs comme ça, ce qui bat Roger et tout, ce qui fait des demi-finales en Grand Chelem. Franchement, et j'adorais son charisme et tout, comment il jouait. Puis, j'ai vraiment des bons souvenirs de l'avoir vu jouer et de dire souvent que qu'il m'inspirait.
Ouais, tu t'es un peu identifié.
Ouais.
Mais même dans vos styles de jeu, vous êtes.
Ouais, final, ouais.
Il y a quelques similitudes.
Ouais,
service, gros coup droit, on frappe fort.
Ouais, c'est ça, ouais. Présence physique.
Voilà, ouais, ça, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui dans le tennis, dans cette période compliquée?
La compétition, évidemment, mais que je retrouve un peu là, dernièrement, l'entraînement, genre des matchs d'entraînement. Mais c'est drôle parce que, plus qu'à l'habitude, je trouve je me teste un peu plus dans l'entraînement. Tu sais, parce que, je sais pas, au final, tu as les tournois normalement pour te tester, pour voir où tu en es, pour avoir un certain résultat, chercher un certain résultat. Et là, je trouve que dernièrement, sur des matchs d'entraînement, tu essaies un peu de te stimuler avec le résultat. Bon, il en faut garder non plus, faut pas exagérer parce que ça reste de l'entraînement. Mais ouais, je pense que ce qui me manque, c'est les matchs, c'est les atmosphères de la tension des matchs, l'avant-match, les foules, les gens vraiment qui applaudissent après les points. C'est unique, quoi. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment une chance parce que ce qu'on fait, c'est unique et c'est incroyable, quoi. Et dernièrement, je faisais une publication, puisque c'était la fête nationale au Québec, et comment je me rappelais un peu le soutien du public chez moi à Montréal l'année dernière. Et c'était magique. C'est tellement une chance de jouer devant 11 000, 12 000 personnes qui sont derrière toi. C'est des souvenirs incroyables. Tu as des frissons limite quand ça se passe. Donc, c'est ce qui me manque le plus, je pense.
On s'y habitue jamais, il y a toujours des frissons.
Ben, je suis jeune, donc moi, c'est tout nouveau. J'ai joué à Montréal, c'était la première fois. C'est vraiment la première fois que j'avais un stade rempli pour moi, quoi. Qui était derrière moi. Après, évidemment, en Coupe Davis, il y avait Coupe d'Espagne, il y avait une ambiance de folie aussi. À d'autres moments, mais là c'était vraiment pour moi c'était le summum, donc c'était une belle première expérience, et c'est sûr que je pense pas qu'on s'en lasse parce que déjà en tout cas une première fois je l'ai vécu et j'ai envie de le revivre des milliers de fois parce que c'est un sentiment qui est unique.
J'aime bien, on parle un peu de tennis, de tension d'avant-match, de tout ça, je trouve que ça nous manque, c'est pour ça que j'adore ça. Qu'est-ce qui te passe par la tête avant de rentrer sur le terrain?
Ça dépend. Franchement, ça dépend des fois.
Tu penses à ton adversaire, tu penses à ce que tu dois faire. Comment tu te prépares?
Je suis plus je suis le genre de joueur qui pense plus d'abord à ce qu'il a à faire, de bien, et après de s'ajuster par rapport à ce que l'adversaire va offrir durant le match et à la journée. Je pense que les gros points sur lesquels je me focalise durant le match, c'est ce que je maîtrise, ce que je fais bien, ce que je peux bien faire au service. Que je peux bien mettre en place dès le début du match, parce que j'essaie de commencer vraiment avec les premiers, commencer avec le début du match, puis après bon quelques jeux après un set, tu vois ce qu'il faut ajuster, t'essaies de faire au mieux, ou sinon des fois il y a rien à ajuster, il faut juste continuer à insister, puis après oui ça dépend de l'adversaire, mais je pense que en pourcentage c'est quand même un plus gros pourcentage, j'essaie de me concentrer sur ce que je contrôle, ce que je maîtrise, et après une petite adaptation par rapport à l'adversaire du jour. Parce qu'on commence à se connaître, évidemment, on sait quelles sont nos forces, nos faiblesses. Donc, une petite adaptation sur l'adversaire du jour, mais en grande partie, je me concentre sur moi.
Le tennis vit une période très spéciale en ce moment, assez floue. Les instances gouvernantes ont du mal à travailler ensemble. On commence même à remettre en question le sport lui-même. disant ouais. qu'il est trop long, trop ennuyeux. Quel est ton avis là-dessus?
C'est compliqué. C'est vrai que à la fin de la journée, un sport, c'est pour les gens, c'est du divertissement. Si on se sort de la bulle, nous, on connaît le sport. Je pense pas qu'il y aura jamais de problème pour les fans de tennis, pour les jeunes qui grandissent dans les clubs de tennis avec des parents qui jouent au tennis. Il y aura toujours ce public-là. Il y aura toujours cette partie de la population qui va continuer à suivre le tennis, peu importe comment il est, parce qu'ils sont identifiés à ce sport. Ils aiment ce sport vraiment depuis toujours. Par contre, c'est comment évoluer par rapport au système
marché.
De business, dans le marché dans lequel on évolue, quoi. Et c'est sûr qu'à la fin, on compétitionne avec le divertissement de d'autres sports, de la télé. Donc, c'est sûr qu'il faudra une évolution du sport. Moi, je pense que éventuellement, pourtant, je suis pas du tout pour tuer vraiment l'histoire du sport. Je pense qu'exemple, pourquoi c'est si spécial les grands chelems, c'est parce qu'on se rappelle tous de matchs mythiques, des matchs qui ont duré. Et s'il y avait des matchs qui auraient été en une heure, mais tu sais, c'est un peu comme une heure vraiment, parce que une heure incroyable de niveau, parce qu'il y a des points de folie. Tout le monde sur le moment, on aurait eu du plaisir. Par contre, après une semaine, les gens auraient oublié. Pourquoi aujourd'hui on se rappelle de finale, exemple, je sais pas, Roger, Rafa 2008. 9-7 et tout, je sais plus, même après, au cinquième. Tu dis, on se rappelle parce que ça a duré. Exactement. Ça a duré, les gens, ils ont acheté le billet, ils savaient pas combien de temps ça allait durer. Au final, ils ont eu 4 heures ou 5 heures de spectacle. Ouais. De spectacle. C'est incroyable. Donc, je pense que ça, d'un côté, tu peux pas tuer ça. Ça, c'est déjà pour les gens qui paient, qui viennent voir les tournois. Franchement, tu peux pas tuer ça. Et pour moi, je prends un peu l'exemple, avec mon coach, tu sais, de faire des formats qui vont plus vite. Ouais. Je trouve que à certains moments, oui, pour varier, pour offrir quelque chose de différent à des gens qui aiment ça, qui veulent regarder ça. Par contre, c'est un peu, pour moi, c'est du fast-food tennis, quoi. Tu sais, c'est un peu comme les gens, il y a des gens qui kiffent McDo.
Ouais, c'est sûr.
Tu manges direct, c'est rapide, tout ça. Par contre, ouais, de cuisiner un bon plat qui prend du temps, de s'asseoir, d'apprécier, c'est différent. C'est pour un autre public. Et pour moi, c'est ça la différence. C'est-à-dire que soit tu fais un sport à consommation rapide et c'est du intense, mais c'est bref, quoi, tu vois.
Et ça peut devenir indigeste.
Ouais, et ça peut devenir indigeste à la longue. Ou tu prends le temps de... Tu éduques justement, au contraire, les fans à comment apprécier le sport comme il est, apprendre à bien regarder, à regarder les bonnes choses. Et au final, moi, je parle à beaucoup de gens que, bon... Au final, au départ, tu t'intéresses pas au sport parce que tu connais pas, évidemment. Mmh. Et une fois qu'on t'éduque sur le sport, t'apprends à connaître les joueurs, leur personnalité, tu t'intéresses, ben oui, tu commences à aimer le sport. Donc, je pense qu'il y a une façon de varier la proposition des formats. C'est-à-dire que moi, j'adore voir des compétitions comme la Lever Cup. Ça donne une porte d'accès peut-être à un autre public qui, après, avec ce tournoi, va s'intéresser au circuit complet de l'ATP, des grands chelems. Mais par contre, d'uniformiser toute l'année sur quelque chose de plus court, je pense que c'est peut-être pas la bonne chose. Mais d'insérer quelques compétitions qui sont un peu différentes, franchement, pourquoi pas, il faut l'essayer. Mais ça, c'est un peu mon avis. Ouais.
J'aime bien la métaphore entre la grande cuisine et le fast-food. Donc, je disais, le tennis me manque terriblement, donc j'ai envie qu'on en parle ensemble, si tu veux bien. Aujourd'hui, tu es 20e mondial, et tu es 17e au mieux. Quels sont tes objectifs à court terme?
À court terme, franchement, oui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas non plus de cachette que je veux être dans le top 10, et mieux, faire le Masters, tout ça. Je suis jeune, je suis 20e, c'est normal, j'ai des grandes ambitions. Par contre, franchement, au fond de moi, ce que j'ai, les leçons que j'ai appris depuis que j'ai commencé à jouer, c'est vraiment de prioriser ce que je contrôle, le processus, les choses que je dois mettre en place, et pas nécessairement les résultats. Donc, que je te dise aujourd'hui, je vais être top 10. Si vraiment, au fond de moi, si je me concentre à être top 10, peut-être j'y arriverai pas. Probablement, j'y arriverai pas. Par contre, si je me dis, OK, si j'arrive à trouver, je sais pas, un certain niveau de jeu, exemple, à chaque match, de service, par exemple, de maîtrise de mes coups, de la précision de mes coups, de contrôle, de solidité. Si j'arrive à mettre ça, exemple, sur un match et sur un autre et sur toute une semaine et ainsi de suite, au final, ça va payer. Je veux dire, il y a aussi le sport, il est juste là-dedans, c'est que au final, tu mets des choses en place et tôt ou tard, tu travailles pour que ça paye. Donc vraiment, franchement, j'essaie vraiment de me concentrer là-dessus. Donc mes objectifs, si tu me demandes à court terme, c'est vraiment de continuer à bien faire ce que je fais bien et d'améliorer les choses qui sont améliorées et de vraiment d'insister, quoi. Et de continuer et d'insister. J'ai pas d'objectif clair de classement ou de performance. Tu sais, je veux dire, je veux bien gagner un titre, tout ça. Tout le monde veut gagner des titres, mais c'est pas un objectif en soi.
Petite question là-dessus. Est-ce que ça t'a un peu agacé parce que t'as perdu 5 finales? Est-ce que ça t'a un peu agacé les gens qui ont dit que t'avais peut-être un problème avec tes finales? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a ennuyé?
Forcément un peu, parce que c'est sûr que surtout, on sait comment ça se passe, c'est que souvent tu réponds à ces questions juste après la défaite. Donc évidemment, je veux dire, quand je perds la 4e ou la 5e finale, on me demande, ouais, est-ce que ça te gêne ou est-ce que ça te fait quelque chose de perdre ces finales? Et oui, forcément, je veux dire, j'aurais bien voulu les gagner.
Bien sûr.
Évidemment que oui, tu te poses la question, ok, ben, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que j'ai pas fait bien sur ces finales? Et à chaque fois que j'ai la réflexion sur ces 5 finales, chaque match est différent, chaque adversaire est différent aussi, ouais. Les conditions sont différentes. Donc franchement, tu peux les voir comme oui, ces 5 finales, c'est ce que je dis souvent aux gens, mais je le pense vraiment, c'est qu'on peut le voir comme oui, ok, c'est 5 finales. Par contre, c'est juste ces 5 matchs, et ces 5 matchs probablement différents, à des moments différents. La première finale, je me vois comme un joueur sans expérience vraiment, qui joue sa première finale. Je suis complètement dépassé par la semaine. Je veux dire, j'étais en dehors du top 100. Je suis sur un ATP 500 à Rio. Et je me retrouve en finale. Et un joueur qui est un peu dans la même situation que moi. Et je sais pas, j'arrive pas à gérer le truc. Et je sens que je rate un peu mon match. Bon, OK. Après, la deuxième, on le sait, j'étais blessé. Après, j'ai dû me retirer à Roland-Garros. C'est pas... Benoît, il a très bien joué, mais j'étais quand même limité, ça je le sais au fond de moi. La troisième encore, c'est un très bon match et je suis pas loin. Et au final, t'sais, Berrettini joue mieux que moi. Donc, c'est juste pour dire que chaque match est complètement différent.
Bien sûr.
Et que je m'en fais pas avec le fait qu'on dise, oui. OK, est-ce que ça me gêne ou qu'on dise n'importe quoi sur les finales. Je veux dire, je vais continuer à me donner des chances de jouer des finales déjà. Et après, il faudra accrocher le petit match en plus. Et je veux dire, j'espère que si je fais des bonnes choses, ça viendra. Et ça viendra quand je le mérite aussi, quoi. Il faut être patient.
Surtout, je sais un petit peu ce que je sais parce que tu parles à quelqu'un dont son frère...
Ouais, non, je sais très bien. Ouais. Je sais très bien. Mais bon, franchement, si tu dis, je sais pas, j'ai même pas encore 20 ans, j'ai déjà 5 finales.
Bien sûr.
Il faut voir le côté positif aussi de la chose. Je veux dire, c'est magnifique. J'aurais jamais pensé avoir déjà atteint 5 finales. Après 2 ans en fait complète sur l'ATP, même pas presque. Donc c'est juste positif.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu disais tout à l'heure que tu te concentres sur les zones que tu as encore améliorées, sur les progrès que tu as encore à faire. Quels sont selon toi tes axes de progrès?
Je pense que je suis arrivé sur le circuit comme un joueur qui se présentait d'une façon assez complète. Je pense pas qu'il y ait des choses. J'ai pas basé mon jeu sur une force. Sur une force particulière. C'est sûr que je sais que les matchs, je cherche très bien. Je me donne des opportunités sur toute surface à gagner des matchs. Mon coup droit, j'ai toujours aimé, toi frapper. J'ai toujours été assez explosif, assez intense dans ce que je faisais. Mais franchement, c'est juste d'élever tous les curseurs. Et franchement, le gros axe pour moi, c'est la précision. C'est la précision parce que au plus simple, pour moi, le tennis, ok, t'as des jeux de service, t'as des jeux de retour. Si j'arrive à élever mon niveau de service pour justement sécuriser ces jeux de service avec, en t'aidant avec 1-2 services gagnants par jeu, après, au retour, tu vois, de continuer, évidemment, la précision, c'est tout ça, c'est encore mieux connecter, faire les meilleurs choix au retour. Tout ça, pour moi, ça rentre dans l'aspect de précision. D'accord. Et après, dans le jeu, pareil. Je pense qu'une de mes grandes forces, évidemment, c'est l'intensité, l'explosivité, le physique, tout ça. Ça, ça va continuer à s'améliorer, mais naturellement. Je pense qu'il y a un gros travail au niveau de la précision. Je veux devenir encore un joueur qui est encore plus précis dans ce qu'il fait, dans ses intentions, dans ses choix de jeu. Et c'est sur ce que vraiment je travaille. Franchement, c'est ça depuis que j'ai commencé vraiment sur le circuit. C'est ça, quoi. Je veux continuer à faire ce que je fais bien en devenant de plus en plus précis.
Est-ce que parfois, la jeune génération que tu représentes avec les autres, avec Zverev, avec Tsitsipas, est-ce que parfois vous vous dites, bon, ça va, on en a assez de victory, comment faire pour les pousser dehors?
Ouais, c'est... Moi, personnellement, je ne sais pas comment eux, ils le vivent, mais moi, je ne me pose pas trop la question. Je veux dire, c'est plutôt un beau challenge de dire, OK, je pense qu'une génération comme celle peut-être de ton frère, des autres, même un peu plus jeunes, toute la génération qui est née un peu en 90 et par après, eux, ils ont pris cher, tu vois, sur plusieurs années. Tu sais, c'est dur de... Non, mais des gars, je pense à des Nishikori, des Raonic, tout ça, des gars qui jouent très bien. Mais bon, à chaque fois, putain, ils se frappent en demi ou en finale de ces grands chelems, ils se frappent des gars comme ça. Franchement, c'est difficile. Et surtout, année après année. Moi, j'ai joué Rafa une fois. Ces gars-là, c'est encore un... Il y a la pression par le palmarès qu'ils ont, par les personnages qu'ils sont. Par contre, il n'y a pas encore cette marque où est-ce qu'on a perdu plusieurs fois contre eux et qu'on les a vus gagner plusieurs fois en face de nous. Donc, c'est un peu différent. Le feeling est un peu différent. Mais je pense que donc pour moi, franchement, ils vont jouer jusqu'à temps qu'ils aient envie de jouer. Et évidemment, je me mets dans leur place. Si je gagne encore à cet âge, je vais continuer à jouer. Tu prends plaisir, tu aimes ce que tu fais et en plus, tu gagnes. Pourquoi arrêter? Et nous, c'est vrai que c'est un beau challenge. C'est un beau challenge de dire, OK, on est une nouvelle génération qui arrive. Certains l'ont déjà fait dans cette génération, d'arriver à battre ces joueurs-là sur des gros tournois. Franchement, moi, je le vois plutôt comme un beau défi. Puis si je peux avoir la chance de les jouer avant qu'ils se retirent, ce serait très bien.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as joué Rafa?
C'est tout un moment quand même, parce que déjà, tu grandis en le voyant jouer. Donc, ce qui est difficile, c'est que tu joues pas, t'arrives pas, t'essaies de te dire, OK, je joue en espagnol et gaucher, quoi, et c'est tout. Mais t'arrives pas à te sortir du truc que, ouais, c'est bon, c'est Rafael Nadal, c'est 19 grands chelems, en plus sur terre battue, tout ça. Donc, tu rentres déjà en te disant, ouais, le gars va jouer incroyable. Alors que si ça se trouve, Rafa, il a déjà eu mon âge, il a déjà été plus jeune, ou est-ce que, il sait qu'il y a certains jours où est-ce qu'il joue moins bien, il y a certains jours où il est moins bien. Il est humain malgré tout. Donc, au final, c'est dur de vraiment juste jouer le jeu, jouer la balle, quoi. Tu joues le palmarès, presque. Et c'est ça que tu as senti. Et surtout, le moment où est-ce que tu arrives et tu as le stade qui est plein à craquer, un bruit que tu n'as jamais entendu vraiment de ta vie, tu as quand même le bras qui tremble un peu. Donc, c'est vrai que c'est ce que j'en retire, c'est que après, c'est franchement une belle expérience. Moi, j'ai senti que j'ai fait un match correct. Je peux toujours mieux faire, évidemment, mais c'est pas non plus comme j'ai pas fait de match, quoi. Puis le niveau psychologique qu'il ajoute était énorme, parce que le jeu tel quel, au début, j'étais côte à côte, tu vois, je servais bien, il n'y avait pas de break et tout. Il n'y avait même pas de balle de break. Donc, au début, tu te dis, ouais, au final, je suis dans le match et tout. Et après, il y a quand même petit à petit cet aspect psychologique qui grige un peu. Et après, une fois qu'il prend l'avance, voilà, après, il y a cette dimension, supérieure là, de psychologie qui rentre en jeu et ça devient difficile à contrer. Il prend confiance, il te roule dessus, c'est comme un rouleau compresseur qui lentement te gruge. Et au final, bon, le match passe, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un bon souvenir.
J'avais envie de revenir avec toi sur un moment. Ça se trouve, il t'a rien dit de spécial, mais tu as très bien joué en junior en atteignant la 4e place mondiale. Et en 2007, tu perds en finale de Roland-Garros Junior contre Geoffrey Blancaneau.
Ouais.
Il y a Yannick Noah qui assiste au match. Et qui rentre sur le court à la fin. En plus, qui nous a montré une belle facette de sa personne. Ouais. Et il t'a glissé quelques mots à l'oreille. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
Non, mais en fait, je l'ai raconté avant, mais sur le court, déjà, il vient me voir. Moi, qui viens de perdre cette finale en ayant balle de match, j'ai 15 ans, je veux dire, c'est le rêve de gagner Roland Garros, un junior. Je suis en larmes, quoi, tu vois, je suis en larmes, j'ai juste envie de sortir du court. Franchement, j'ai même pas envie de faire la cérémonie, rien, quoi. Donc, c'est sûr que bon, ça tue un peu le moment parce que c'est quand même Yannick Noah qui vient de voir, qui glisse des mots à l'oreille. Franchement, j'ai un vague souvenir de ce qu'il me dit sur le court. C'est des mots, il m'encourage, tu vois, il me dit des bonnes choses, il m'encourage. Mais sur le court, j'ai vraiment de vagues souvenirs. Par contre, l'histoire, c'est qu'après, donc moi, je rentre au vestiaire qui est sous le Langlen et qui arrive dans le vestiaire. Yannick Noah arrive dans le vestiaire. Donc, je suis seul, tu sais, en plus, c'est le jour des finales et tout. Donc, je suis seul dans le vestiaire et t'as Yannick Noah qui arrive. Et là, c'est incroyable parce que tu te dis, bon, déjà, il vient de voir sur le court avant d'aller voir Geoffrey. Et après, il se déplace quand même. On était sur le court 1. Donc, il va jusqu'au Langlen pour aller dans les vestiaires.
De voir.
Et là, tu te dis, OK, quand même, c'est incroyable. Parce que là, je suis un peu plus lucide. Et là, il me dit, franchement, aujourd'hui, je devais être pour Geoffrey, pour le français. Mais franchement, au fond de moi, tu me fais beaucoup penser à moi. J'ai adoré ce que j'ai vu. Et il me dit, franchement, tu vas aller loin. Et vraiment, vraiment que des bons mots d'encouragement. Et qui me dit que je lui fais penser à lui, qu'au fond de son cœur, il était content, en tout cas, de voir ce match. Et il aurait été content de me voir gagner aussi. Mmh. Et vraiment, c'était un moment incroyable. Et là, donc il quitte. Mmh. Et t'as les gars qui travaillent au vestiaire, tu sais. Et qui font attends, mais est-ce que tu réalises un peu là ce qui se passe, tu sais, pour que Yannick se déplace jusqu'au Langlen pour venir te parler? C'est quand même, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Tu réalises pas, je pense. Et bon, maintenant je réalise.
Tu as dit que tu étais en train d'essayer de progresser, de travailler sur certains aspects. Pour faire tout ça, tu travailles avec des entraîneurs français.
Ouais.
Guillaume Marx et Frédéric Fontan.
Ouais.
Il y a d'ailleurs beaucoup de Français à Tennis Canada.
Ouais.
Ma première question, c'est quand est-ce que vous nous les rendez?
On ne sait pas. Je pense que bon, il y a Louis, notre DTN, Louis Bortfiga, qui arrive sur vraiment la fin de sa carrière. Je ne sais pas. Hein,
qui m'a encadré lors de stages de formation à la fédération.
Il y a la retraite qui arrive, donc on verra ce que les offres qu'il aura et où il va se diriger. Mais c'est vrai que ouais, Louis, en fait, ça a commencé avec Louis. Qui après a amené Guillaume. Et en 2015, il y a Nicolas Perrot, préparateur physique, qui est arrivé aussi. Et franchement, ouais. Puis après, tu as Frédéric qui travaillait avec Vachek. Mm-hmm. Mais ça, c'était plutôt un truc privé, quoi. Il y avait l'appui de la fédération quand même, mais c'était un truc privé parce que Vachek était déjà sur le circuit ATP et tout ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est notre côté français. Puis. Je pense qu'ils ont fait quelque chose de formidable parce que d'arriver avec une page presque vierge, on va dire, et de bâtir, mettre un système en place, les infrastructures ont été améliorées, mais vraiment de mettre une philosophie en place, un système en place pour puis avoir des résultats comme ils ont eu autant chez les hommes que chez les femmes. Franchement, c'est beau. Et après, il y a tout un timing d'engouement, de bons joueurs avec bonne qualité qui sont arrivés. Et il y a cette stimulation entre nous qui a été énorme aussi. Je pense que tout ça ensemble, c'est pas qu'une chose, c'est une multitude de choses qui a commencé par une bonne décision déjà de la Fédération au Canada de prendre de l'expérience ailleurs, à l'extérieur du pays, de s'éduquer sur le haut niveau. Et après, ça a pris des bonnes personnes pour prendre des bonnes décisions et donner l'appui qu'il fallait aux joueurs. Mais c'est vrai qu'après, moi, dans la continuité, ça s'est très bien passé avec Guillaume chez les juniors, qui était comme l'entraîneur en chef du programme au CNE. Junior, on a continué ensemble, on a continué avec Nicolas. Mmh. Et tout s'est fait franchement naturellement. Puis après, avec Guillaume, pensait qu'il pouvait utiliser l'expérience que Fred avait déjà avec les années déjà de joueur et d'entraîneur avec Jérémy, avec Bachek. Et c'est ça, il s'est ajouté à notre équipe en 2017. Et depuis, on travaille en binôme avec Frédéric et Guillaume, et Nicolas toujours qui est là. Donc non, je pense qu'il y a beaucoup de loyauté, il y a une bonne relation de confiance qui est installée. Donc je peux pas, franchement, je peux pas demander mieux. Pour l'instant, ça se passe très bien.
Tu as parlé d'une philosophie, comment tu pourrais la décrire?
Oula, par vous, c'est les petites choses au quotidien. Je pense que c'est pour déjà peut-être parler de choses concrètes. On a commencé à jouer beaucoup plus sur terre. Les joueurs au Canada, bon, évidemment, on joue en indoor la moitié de l'année, presque, sur dur beaucoup. Je pense qu'ils ont mis les moyens. Je ne sais pas tout, hein, mais ils ont quand même, moi, quand j'étais enfant, il n'y avait pas de terrain battu couvert. Il y en avait, mais pas au CNE. Ils ont mis des terrains de terre battue couvert. Donc, ils pensaient que c'était une bonne partie, une partie importante pour le développement des joueurs, de s'entraîner sur terre. Donc, déjà, on a pu s'entraîner sur terre beaucoup plus souvent. On a fait des voyages qui, moi, personnellement, m'ont grandement aidé en termes de maturité, d'expérience, de voir autre chose, de voyager, que ce soit en France, en Italie, de sortir un peu de cette bulle. Déjà, ils ont mis, c'est ça, les moyens financiers, mais aussi ils ont eu les bonnes idées de justement de faire découvrir ces choses qui sont différentes pour un jeune Canadien. Et donc, ça, encore aujourd'hui, je pense que c'est des expériences qui m'ont rapidement servi. Donc, ça, c'est vraiment des choses concrètes qui ont été mises en place. Puis après, il y a aussi ce centre national, ce CNE qu'il n'y avait pas. On ne les connaît pas, mais on était 7 garçons dans mon groupe. On était 7 garçons d'un assez bon niveau. Maintenant, certains d'entre eux qui sont mes amis sont en université aux États-Unis. D'autres jouent un peu moins. Mais ça reste qu'on était quand même, toi, 6-7 garçons. Donc ça amenait beaucoup de positifs. Il y avait toujours cet esprit de compétition qui était quand même sain. Mais moi, ça m'a grandement servi, cette éducation au sport de haut niveau, à la compétition, au fait que t'es toujours stimulé, t'es jamais vraiment tranquille, il faut toujours que tu te remettes en question, que t'essaies de faire un peu mieux que l'autre. Et ça, franchement, c'est tout ça qui au final, petit à petit, a fait son chemin. Et c'est des bonnes habitudes au quotidien qui, au final, ont apporté des résultats. Et après, tu as le cas de Shapovalov qui est peut-être plus en privé avec l'appui de la fédération quand même, mais qui fait les choses avec un entraîneur et sa mère, tout ça, qui arrive en même temps. Donc, c'est sûr que dès les juniors, on est stimulé, on est en compétition, mais tout ça, c'est positif.
Donc, tu l'as dit, il y a un groupe qui a été formé dans le sillage de Milos Raonic et Eugénie Bouchard. Il y a une très belle génération donc avec toi, avec Denis Shapovalov et puis le côté féminin avec Bianca Andreescu. Est-ce que dans cette émulation qui est saine, je parle entre toi et Denis, est-ce que tu t'inspires de lui?
Non, je dirais pas jusqu'à m'inspirer. Il y a des côtés, qui sont forts. Il a ses qualités, il a ses forces. Quand même cette fougue, un peu ce sang-froid, cette qualité à toujours rebondir, tu vois, malgré la défaite ou ce qui se passe. On se rappelle de l'incident en Coupe Davis, quand j'ai vu rebondir de ça, putain, il était choqué, mais tout de suite après, il s'est remis dedans, il a été résilient, donc tu sais, ça c'est quand même des forces à lui, donc je pense que ça fait de lui ce qu'il est aujourd'hui.
Je veux juste rappeler pour les auditeurs que il avait allumé entre guillemets l'arbitre sur un jet de balle qui lui avait échappé, et il avait attrapé l'arbitre dans l'œil. Voilà.
Ouais, donc disqualifié, j'étais là, je regardais le match, disqualifié sur un match décisif en phase de qualif de Coupe Davis. Je veux dire, je pense qu'il avait juste 17 ou 18 ans, ça choque quand même. Donc après, il a quand même…
Tu étais dans la salle?
Ouais, j'étais dans la salle, ouais.
Et après, dans le vestiaire, tu étais là aussi et tout?
Ouais, je t'ai pas trop vu, franchement. Après, il est retourné s'excuser personnellement auprès de l'arbitre. Je pense qu'ils ont salué l'équipe des Anglais. Puis après, il était rapidement. Il y a eu une conférence de presse, puis il était avec sa famille après tout ça. Donc, moi, après, je suis reparti rapidement. Non, j'ai pas. Parce qu'en fait, j'étais pas dans l'équipe. J'étais spectateur, quoi. Donc c'est ça, mais cette capacité-là à bien rebondir, ça fait de lui des bonnes qualités qu'il a. Et c'est ça, il s'est ancré dans son jeu, il se laisse aller, il n'a pas peur de la faute, il prend des risques, il a la capacité à prendre des risques. Donc, je m'inspire peut-être pas de ça, mais je reconnais ces forces-là et je les reconnais. Par contre, pas non plus. Je pense qu'on est stimulé parce qu'on cherche les deux à devenir meilleurs. On ne peut pas laisser l'autre, tu vois, pas laisser l'autre aller, on ne peut pas laisser l'autre dominer ou être le meilleur. Donc, c'est un challenge, mais au final, qui est positif.
Qui est ouvertement avoué.
Ouais, peut-être qu'on ne le dit pas, nous deux, entre nous, mais on le sait, au fond, quand on se joue, il n'y a pas de cachette. Quand on se joue au front, on veut gagner. Et ça remonte à loin, parce qu'on s'est joué, on avait même 10-11 ans. Donc, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de cadeau quand on se joue. Après, on arrive quand même à entretenir une très bonne relation.
Vous êtes très proche.
Peut-être pas. Tu vois, dernièrement, on parle un peu moins. Tu vois, on est parce qu'il y a la distance, on se voit moins sur les tournois, tout ça. Mais quand on est en tournoi, je te dirais, oui, on parle, on est assez proche. En Coupe Davis, on a toujours des bons moments. En junior, on a passé des moments incroyables. Mais après, c'est ce que je regrette un peu, en tout cas dans le tennis, c'est que malheureusement, c'est quand même un peu chacun pour soi, quoi. Parce que c'est un sport individuel, on a chacun nos programmes, on a chacun nos horaires, on a nos équipes, on est amis, mais en même temps, on est en compétition, donc tout ça, c'est délicat. Mmh. Et c'est dur, t'en parles pas vraiment, mais tu sais au fond que vous vous entendez bien, on s'entend bien, on peut rigoler ensemble, on peut dîner ensemble, mais après, arriver sur le court, arriver à l'entraînement, arriver sur le site du tournoi, chacun pour soi, quoi. C'est comme ça.
C'est induit, quoi, en fait. Vous savez que de toute façon, ce sera soit l'un ou l'autre.
Ouais, ça peut être les deux qui vont bien jouer aussi, mais...
Mais il y en a un jour un qui est devant
l'autre. C'est ça. Ouais, c'est toujours comme ça. Hein. Mais je pense pas que ça a besoin d'être négatif. Et ça, il y a une partie où est-ce que... Et le moment où est-ce qu'il a été mieux classé que moi, peu importe, où est-ce qu'il battait, je l'ai battu. Il faut juste l'accepter, quoi. Il y a des moments où est-ce que... t'acceptes, ok, là, toi, il m'a battu, ou il joue mieux que moi. Moi, je bosse de mon côté pour, déjà pour moi-même, hein. C'est pas non plus, on n'est pas dans cette rivalité où est-ce qu'on fait les choses pour battre l'autre seulement. Hein. Je veux dire, c'est un sport où est-ce qu'on est en compétition avec tout le monde aussi. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas faire sa place.
Ouais. Tu es jeune, tu as 20 ans, mais tu t'occupes déjà et tu penses déjà à redonner à la communauté, et une communauté assez large. Début 2020, tu lances le projet F2A, Points for Change.
Ouais.
En gros, tu donnes $5 par point marqué lors des matchs officiels, c'est ça ?
C'est ça.
Et en fait, tous ces sommes financent l'éducation dans la région de Kara au Togo.
Oui, exactement.
Pourquoi tu as eu le besoin de faire ça ?
Franchement, l'opportunité, je ne savais pas quand ça allait se présenter, mais l'opportunité s'est présentée à moi de faire quelque chose qui faisait du sens pour moi, pour ma famille. Et j'ai vraiment pas hésité à le faire. Et c'est sûr que ça remonte loin parce que c'est l'éducation que je pense que mes parents nous ont donnée à ma sœur et moi. Ma mère a fait de l'humanitaire dans le passé. Mon père vient de cette région, en tout cas pas loin. Il a toujours eu ce sentiment qu'en quittant le pays, il fallait qu'il redonne d'une façon ou d'une autre toujours à sa famille, mais aux gens là-bas qui comptaient sur lui, qu'il a, si vous voulez, un peu laissé derrière pour lui vivre des choses différentes, pour faire le mieux pour sa famille et tout ça. Et c'est des circonstances, mais après, il y avait toujours cette envie pour moi, pour ma famille, de redonner. Tu commences ta carrière, déjà, l'objectif, c'est de devenir le meilleur joueur possible. C'est toujours le cas. Après, quand tu vois ce que ça fait et ce que tu peux en faire de cette carrière sportive, de cette visibilité, j'ai compris que je pouvais en faire quelque chose de positif et de redonner. et même de donner l'exemple. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi, pour mon cheminement personnel. Et ça a été vraiment naturel l'année dernière, quand j'ai rencontré BNP Paribas, qui est partenaire dans ce projet. On s'est dit, OK, on a discuté d'une éventuelle collaboration. Puis après, j'ai choisi rapidement la fondation, le projet vers lequel je voulais m'enligner. Et après, c'est sûr que comme premier projet humanitaire, de me diriger vers le Togo, pays d'origine de mon père, pays que j'ai visité une première fois, je sais pas, c'est quand même plus près de mon cœur. Donc ça a été naturel d'aller vers là. Mais je te dirais que pour résumer, cette envie de redonner, ça part de ma famille, et ça part de ce qu'ils m'ont inculqué, et c'est ça.
On sent quand tu parles de ta famille que c'est sacré, que on sent aussi que tes racines au Togo sont importantes pour toi. Tu es retourné une fois, c'est ça?
Ouais, j'y étais une fois seulement, ouais. Mais pas longtemps, j'étais deux semaines seulement. Puis ce que je réalise, c'est qu'au final, bon, mon père, il raconte des histoires quand t'es enfant. Là, t'as la chance de voir ces histoires un peu en vrai, de voir où il a grandi, de voir tes oncles, tes tantes, ma grand-mère. Et tout ça, c'est des souvenirs incroyables. Puis de voir juste le pays, voir quelque chose de différent qui sort de ce que tu connais, c'était vraiment formateur. Par contre, je pense que les racines, c'est plus au niveau des valeurs, de l'éducation et de la façon que les choses ont été à la maison que vraiment je les ai senties, ces racines. Mon père, malgré le fait qu'il vivait à Montréal, au Canada, apportait quand même une forme d'éducation tu sens qui est différente, quoi. Qui est quand même différente de ce que je voyais autour de moi. Et je pense que ça m'a servi, c'est une force un peu, cette diversité,
À quel niveau c'était différent de ce que tu voyais autour de toi?
Mon père fait pas de concessions. Pour lui, c'est, il y a des choses qui doivent être faites, comme ça. Il y a pas, c'est pas de faire différent. Il y a pas de compromis, quoi. Et les choses qu'il croit qui sont bonnes, tu vois, ses valeurs, tout ça, vraiment, c'est quelqu'un qui va jamais à l'encontre de ça. Il est vraiment en parfait accord avec ce qu'il veut, avec ce qu'il est. Et vraiment, il a transmis ça. Je pense que nous, ça a toujours été clair, les personnes qu'on voulait être, comment on voulait se comporter, ce qu'on voulait faire. Et dans le sport, comme à la maison, c'est quand même, je veux dire, sans entrer dans la comparaison, mais par les autres choses que je voyais quand j'allais soit dans les tournois, soit les amis, soit à l'école, les gens, les autres enfants que je côtoyais, il y avait quand même cette discipline, cette éthique de travail. C'est aussi ce côté de, quand tu choisis quelque chose, que certains appellent un sacrifice, mais pour moi, c'était plutôt un choix. Quand tu choisis quelque chose, tu vas jusqu'au bout de la chose. Tu vas jusqu'au bout de la chose et tu ne lâches pas le truc. Et mes parents, c'était toujours le discours, c'était cette phrase qu'ils nous répétaient tout le temps, c'était que chaque chose qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Et ça, ils nous le répétaient, mais toujours. Donc, après, au final, c'est là que je pense que ça vient d'un peu de mon père vient, parce que quand il a vu cette difficulté, quand il te raconte les choses qu'il a traversées, tu vois, tu comprends que pour lui, c'est ancré. C'est ancré et tu sens qu'il a laissé beaucoup de choses derrière, qu'il a sacrifié beaucoup de choses et qu'en fait, toi, sans même pas que tu as le choix de faire différemment, quoi. Donc, c'est probablement naturel. Et ça, ça part de ce qu'il a vécu dans le passé, quoi.
T'as pas d'autre choix que d'être honnête envers toi-même.
Ouais, et d'être bien, quoi. D'être quelqu'un de bien et d'être quelqu'un qui vraiment travaille, respect et humilité. Et puis, ça, quoi. C'était simple, mais fort, quoi. Les valeurs.
C'est une question que je pose à tous mes invités, mais je pense qu'il y a un début d'élément de réponse. J'ai observé chez tous ces champions, chez vous, les champions de tennis, qu'il y avait une rage en eux pour réussir. Elle vient d'où, la tienne?
Ouais, encore un peu de ma famille, hein, je veux dire. Mais après, il y a, oui, ce côté personnel aussi. Franchement, ma mère qui est plus du côté, c'est un peu cet équilibre entre mon père et ma mère. ma mère qui est pas du tout dans le monde de compétition, qui est plus du côté humanitaire, qui est enseignante à l'école et tout ça, qui avait quand même ce beau équilibre entre mon père et ma mère. Par contre, après, oui, moi, personnellement, est venu un moment où est-ce que j'aimais gagner, mais j'étais pas non plus dans le truc. Des fois, on entend avec les grands sportifs américains, tout ça, comme vraiment cette rage d'être vraiment le meilleur, d'écraser les autres, de dominer les autres. Moi, c'était pas trop mon truc, c'était pas trop là-dedans. J'avais pas cette méchanceté mal bien placée, quoi.
Comme Michael Jordan, quoi, par exemple.
Ouais, comme quand on écoute le truc de Jordan, franchement, c'est pas moi, quoi. Même si, peu importe la carrière que je vais avoir, ça peut pas être moi. Essayer de rabaisser les autres, de faire des... Franchement, c'est pas mon truc. Donc, mais encore une fois, donc moi, si je suis pas dans ce côté-là, mais je suis dans le côté que j'ai choisi ce sport que j'aime. Et franchement, je veux en tirer le maximum, mais je veux vraiment aller au bout. Donc, et je pense que j'ai compris après que ça allait passer par des moments où est-ce que c'est pas toujours être gentil, il faut aller au front, il faut vouloir gagner au-dessus de l'autre. Et ça, par mon passage au CNE, constamment stimulé par d'autres joueurs, par les entraîneurs, c'est là que vraiment j'ai pris cet esprit de compétition et cette rage de vaincre. Parce que c'est peut-être pas quelque chose que j'avais au départ, moi. Quoi. Même si, comme tout enfant, j'adorais gagner, c'est pas quelque chose que j'avais vraiment au fond de moi. Et je pense que je l'ai appris, je l'ai développé. Et là, je suis dans un... Si tu me demandes aujourd'hui, oui, je suis dans une philosophie que, OK, franchement, je veux aller au bout des choses, je veux faire le mieux que je peux. Et ça passe par, chaque jour, essayer de faire le maximum de la journée, quoi.
Tu sens au fond de toi que tu as quelque chose de potentiellement énorme, mais au quotidien, tu restes concentré sur ta route, quoi.
Ouais, franchement... J'y crois que j'ai quelque chose, je pense, hein, je veux dire, j'ai une certaine confirmation par des résultats.
Oui, quand même, oui.
Ouais, que j'ai quelque chose, je peux faire quelque chose de peut-être potentiellement de grand dans le sport. Après, c'est entre mes mains, ça va passer par moi, et tu sais pas, et franchement, tu sais pas, c'est vrai, hein, tu sais pas jusqu'à temps que ça arrive. Et même, des fois aussi, je me rappelle, tu vois, ce que j'ai fait jusqu'à présent, tu dis, au final, avant chaque match, quand on parle de cette tension, cette excitation, tu sais pas si tu vas gagner ou tu perds, tu sais. Et au final, ben, chaque victoire, chaque bon moment que j'ai connu, ont amené des opportunités, ont amené une sécurité financière aussi, tu vois, on en a pas parlé, mais c'est sûr que c'est une grosse partie. Et tout ça, petit à petit, ça fait son chemin, mais faut se rappeler que tout ça, c'est une multitude de victoires et de défaites, mais qu'avant chaque match, tu sais pas ce qui va se passer. Il y a zéro. Les gens, des fois, ils saisissent pas que, je veux dire, même si, OK, t'as des bonnes qualités, tout ça, il y a absolument pas de garantie. Il y a pas de garantie. Et c'est ce qui fait que, à chaque jour, tu puises au fond de toi parce que tu sais qu'il y a pas de filet, quoi. Il y a pas de filet de secours, que tu dis, de toute façon, dans ce match-là, c'est sûr que je vais l'avoir, non, il n'y a pas de garantie. Il faut faire les choses. Il faut essayer de faire le mieux. Mais en même temps, je sens que j'ai les capacités de faire de belles choses. Mais l'avenir le dira. Et pour l'instant, j'essaie de faire le mieux chaque jour.
J'adore parce que tu réussis un petit miracle. C'est que tu dis des choses très humbles et tu dégages à la fois beaucoup de confiance. C'est assez agréable. On va parler justement, tu dis, parler un petit peu de l'aspect financier. Avant l'enregistrement, je demande sur Twitter s'il y a des gens qui ont des questions qu'ils voudraient te poser et on voit quelques-unes. Okay. Il y a Tanguy Le Civilier qui demande ce que tu as fait de ton premier prize money conséquent.
Alors, premier prize money que j'ai…
conséquent.
C'est drôle parce que, ouais, conséquent. Mais je vais quand même raconter l'histoire parce qu'en fait, parce que j'ai toujours… mes parents, franchement, à ma sœur et moi, ils nous ont donné… Avec les moyens qu'ils avaient, franchement, j'ai grandi dans le statut moyen, quoi, dans une famille moyenne, modèle, ouais, moyenne, je dirais. Mais okay. On avait toutes les opportunités possibles. On avait le sport, l'éducation, la santé. On avait tout ce qu'on avait besoin, quoi. Donc, il n'y avait jamais, et encore plus. Par contre, j'ai toujours eu cette envie de dire, OK, ben, j'aimerais redonner un peu à ma famille ou peu importe. Donc, en fait, le premier prize money, je fais finale dans un futur en Espagne.
Ouais.
Et là, on était en 2016. Et bon, je gagne, je pense, 800, 900 dollars. Quoi.
Ouais, c'est que
900
dire.
Euros, quoi. 800, 900 euros cash. Mais bon, tu sais, t'as 15 ans. Et tu sais, tu reçois 900 euros cash, c'est énorme. Mm. Tu sais, t'es là, j'ai l'enveloppe et tout. Je me dis, j'ai l'enveloppe et je me dis, ah, c'est énorme. Et au final, bon, je finis la tournée par Roland-Garros, la finale. Ouais. Et au retour à l'aéroport, en fait, j'ai acheté un sac Longchamp à ma mère.
Okay.
Donc, elle avait toujours ce vieux sac déchiré, tu vois, qui tenait plus la route. Et je me suis dit, OK, je vais lui faire un cadeau, je vais acheter ce sac. Donc ça, c'est la première un peu, je me souviens, le souvenir que j'ai du premier prize money. Mais franchement, après, sur des plus gros prize money, ouais, je veux dire, j'ai acheté des fringues sympas, des trucs sympas, mais pas, franchement, pas encore de trucs énormes, quoi. Je ne conduis pas encore, donc j'ai pas acheté une voiture.
C'est quelque chose dont tu aurais envie, une belle voiture?
Prochainement, oui. Oui, forcément, je veux dire, un jour, je veux bien, mais c'est pas non plus... En tout cas, j'ai pas grandi, c'est jamais été une passion de moi. Mmh. Donc, je vais être content aussi, parce que comme je vois comment les choses évoluent, je me dis, je voyage tout le temps, je suis jamais vraiment à un endroit, mis à part cette période. Donc, je me dis, tu sais, vraiment d'avoir... d'acheter une voiture de folie, je sais pas, j'ai pas cette envie. Mmh. Par contre, oui, dans le futur... de l'immobilier, une voiture, ce sera des choses que prochainement, oui, éventuellement, j'achèterai. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu une dépense énorme, quoi. J'ai investi un peu avec ma famille, un peu à Montréal, dans notre maison, avec mon père, un peu pour son académie, tout ça. Mais c'est ça, quoi.
D'accord. Tu es un jeune homme, j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux, tu es un jeune homme heureux et amoureux, même, j'ai l'impression, non?
Ouais.
C'est important cet équilibre en dehors du terrain pour être heureux sur le terrain.
Oui, mais c'est pas facile. Franchement, c'est important, mais c'est pas facile. Je réalise que tu es comme sportif, en plus tennisman, quoi. C'est que tu voyages. En plus, bon, ma copine qui est pas au même endroit. Mm-hmm. Donc, ça ajoute aussi cette distance qui est pas facile à gérer, mais ça reste qu'on passe des super moments, très bonne relation. Donc, c'est un bel équilibre. C'est un bel équilibre parce que ça reste qu'à la fin, tu peux être le meilleur sportif ou tu peux être richissime ou quoi que ce soit. Si t'es pas comblé en termes de relations, en termes d'amitié, en termes de familial, pour moi, c'est pas ça, quoi. Franchement, t'es pas dedans, puis c'est pour ça que j'essaie quand même d'avoir une vie, malgré tout, essayer d'avoir une vie équilibrée avec des moments en famille, des moments avec ma copine, pour malgré tout garder une certaine normalité dans ce que tu fais, quoi.
Bah écoute, Félix, ça me paraît bien pour finir cet échange de parler de famille et d'amour. Je trouve ça très beau. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. C'était très sympa. Merci beaucoup, Félix. À très bientôt sur les cours. Qu'est-ce qu'on te souhaite?
On souhaite de la santé. Hein. Pas de petites blessures qui m'arrêtent. Et de la santé, des bons moments, des victoires et un titre prochainement. Hein, j'aimerais bien.
À très bientôt, Félix.
Merci, à très bientôt. Ciao.
Ciao.
Nous le connaissions champion sur le court, et après cet échange, on peut dire que c'en est un en dehors aussi. Dans un moment où le tennis se perd un peu, il est bon qu'un homme de 20 ans apporte de l'espoir. Notre sport est entre de bonnes mains. Ça fait maintenant plus d'un an, chers auditeurs, que Échange existe. Vos retours et votre soutien font chaud au cœur. Alors s'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour un prochain numéro d'Échange. Passez de belles vacances, et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.